Philippe Vivant, Père Philippe, 31 janvier 1984, Saint-Joseph.
Saint Jean et Saint Thomas dit que pour que l'amour naisse, il faut une certaine connaissance de l'unité entre l'aimé et l'aimant. Ne veut-il pas dire par là que pour qu'il y ait vraiment amour, il faut qu'il y ait conscience de l'union affective qui existe entre l'aimé et l'aimant. L'union affective, c'est l'amour. C'est l'effet de l'amour et c'est l'amour. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'il faut qu'il y ait l'union affective avant. Nous dirions-nous qu'il faut une conscience du premier amour pour passer à l'intention de vie. Ah, ça, on est au point de vue moral. L'intention de vie étant la naissance d'un amour véritable parce qu'accepté délibérément. Je n'oserais pas dire ça. Je n'oserais pas dire ça parce que c'est... Vous voyez, il faut essayer de comprendre que ce que saint Thomas essaie d'étudier, c'est la ratio amoris, c'est qu'est-ce que c'est que l'amour. Au-delà de toutes ces diversalités, l'amour nous est donné dans l'intention de vie, l'amour nous est donné dans le choix, l'amour nous est donné dans l'exécution, l'amour nous est donné dans la passion, il nous est donné dans le désir. Et alors, on essaie d'étudier, lorsqu'il est fait d'étudier l'effet de l'amour pour voir qu'est-ce que c'est que cette union affective, il nous dit ceci, hein, je relis le passage, que l'aimant soit dans l'aimé. C'est l'article premier. Il y a deux formes d'union, de l'aimant à l'objet. La première se fait dans la réalité, lorsque l'aimé est présent réellement à l'aimé. L'autre est union affective qui doit être analysée en fonction de la connaissance antécédente. Tout mouvement de l'appétit fait suite à une connaissance. Les deux amours, celui de convoitise et celui d'amitié, procèdent l'un et l'autre d'une certaine connaissance de l'unité. Oui, c'est tout à fait premier. Donc, il y a une première connaissance. Pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait une connaissance de l'unité. Pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait une connaissance. Alors, vous voyez bien qu'il ne précise pas beaucoup. Hein. Il précise simplement, procède l'un et l'autre d'une certaine connaissance de l'unité, de l'aimant et de l'aimé. En effet, lorsqu'on aime quelque chose par convoitise, on la considère comme appartenant à la perfection de son être propre. C'est mon bien. C'est ma confiture. Hein? C'est exactement ce que vous faites. Vous avez pris un morceau, puis quelqu'un vient, il vous prend. Ah, pardon, c'est ma confiture. Parce que vous l'aimez, donc c'est votre confiture. Et de même, quand on aime quelqu'un d'un amour d'amitié, on lui veut du bien comme on s'en veut à soi-même. Là, c'est l'amour d'amitié dans le choix plénier de l'amour d'amitié. Vous voyez, il prend les deux amours, c'est ça qui me semble très intéressant, pour essayer de trouver la ratio amoris. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Et de voir comment l'amour implique nécessairement l'union affective. De même, quand on aime quelqu'un d'un amour d'amitié. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre que tout amour, moi je dirais ça, je dirais tout simplement ce point de vue-là, tout amour, que nous étudions la ratio amoris. C'est le souci de saint Thomas. Il se sert de la passion pour s'étudier la ratio amoris. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors, il montre que tout amour implique une connaissance. Spontanément, qu'est-ce que nous dirions? La connaissance du bien. Tout amour se porte sur le bien. Ça, c'est classique. Hein? L'amour suscite un désir. Et tout amour, comme tel, provient du bien, mais de la connaissance du bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le bien ? C'est ce qui me convient. C'est ce qui est un avec moi. Vous voyez ? C'est donc la connaissance de l'unité du bien et du sujet de Pierre en tant qu'il aime. Il y a cette unité, il y a cette convenance qui est une unité. Donc il y a connaissance de l'unité. C'est ça que saint Thomas veut montrer. Vous comprenez pourquoi il donne ça ? Il ne dit pas là. Nous dirions d'une façon classique, la ratio amoris, la raison d'aimer, ça implique la connaissance du bien. Le bien seul suscite l'amour. Le bien seul a comme fruit l'amour, a comme effet l'amour. Le bien seul, c'est le bien. Et donc, ça présuppose la connaissance du bien. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'il veut aboutir ? Il veut aboutir à quoi ? Il veut aboutir à montrer que l'union affective est l'effet de l'amour. Si c'est l'effet de l'amour, il faut donc qu'il y ait une certaine unité présupposée et antérieure. C'est l'astuce hein, de saint Thomas. Ça. Qu'est-ce qu'il veut montrer ? Il faut regarder le but de la conclusion. Hein. Qu'est-ce qu'il veut montrer ? L'union affective et l'union affective. Donc, pour qu'il y ait union, qu'est-ce qui est source d'union ? C'est l'unité. L'union est un effet de l'unité. Puisque l'union est moindre que l'unité. Donc il faut qu'à la source de l'union, il y ait une unité. Impossible autrement. Où trouver l'unité ? C'est justement dans cette connaissance qui est antérieure à l'amour, cette connaissance du bien, qui est antérieure à l'amour, et que tout amour présuppose, il faut connaître le bien pour que le bien suscite l'amour. Et la connaissance du bien, qui dit bien, dit unité. Voilà ce que je pourrais dire. Oui. Qui dit bien, dit unité. Connaissance du bien, donc connaissance de l'unité. C'est la différence avec la connaissance de l'être. Oui. Qu'est-ce que c'est que le bien ? La ratio boni, c'est ce qui attire ma volonté. Regardez dans le De Veritate, quand saint Thomas parle des transcendentaux, en montrant la différence entre le point de vue de l'être et le point de vue du bien. Il montre que c'est le bien suscite l'amour, il a donc la ratio appetitivi. Il éveille en moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine unité entre moi et le bien. Et je crois que c'est ça que saint Thomas veut montrer. Vous voyez ? C'est très astucieux. Hein ? Alors évidemment, c'est très caché. C'est très caché, c'est très beau. Alors, dans l'amour d'amitié, il n'y a pas de difficulté. L'ami est un autre moi-même. Donc, nécessairement, il y a une connaissance que l'ami, en tant qu'il est mon bien, est un avec moi. Mais même dans l'amour de concupiscence, qui est un amour passionnel, même dans l'amour de concupiscence, il y a une certaine unité. Vous n'avez qu'à réfléchir avec la confiture. Ma confiture, c'est bien évident. Tandis que si vous ne l'aimiez pas, vous diriez la confiture d'aujourd'hui, elle est mauvaise. Vous la rejetez. Tandis que ma confiture, ça c'est tout à fait, vous êtes déjà dedans. Il y a une unité. Mais simplement, quand vous dites, quand c'est un bien, il y a une unité. On saisit une unité entre le bien et l'être qui est attiré par le bien. C'est ça que saint Thomas met en lien. Ça ne veut pas expliquer toute la ratio d'Amoris, hein, mais ça veut montrer que dans la ratio d'Amoris, il y a une unité entre le sujet et le bien qu'il aime. Et parce qu'il y a cette unité, il y aura donc comme effet l'union affective. Oui. L'union affective est un résultat, un effet. Et l'union affective conduit à l'union affective. Alors, continuons. On avait vu la dernière fois, je ne reviens pas dessus, bien que ce soit très intéressant, que de fait, l'amour a comme effet, donc, voyons bien, l'union est un effet de l'amour, l'inhérence mutuelle demeurait en lui et moi en moi, et lui en moi, une inhérence où on demeure. Troisièmement, l'extase. L'extase est-elle causée par l'amour? Alors, l'extase est-elle un effet ou est-elle l'amour lui-même? On dit toujours, l'amour est extatique. Quand vous dites l'amour est extatique, est-ce que l'extase est un effet ou est-ce que l'amour lui-même est extatique? Denis écrit que l'amour divin produit l'extase. Divinus amorem facit extasim, et que Dieu lui-même est sorti de soi par amour. Divinus, oui, ipse Deus propter amorem est extasim passus. Comme tout amour est une certaine ressemblance participée de l'amour divin, ainsi qu'on l'explique au même endroit, il semble que tout amour soit cause d'extase. N'importe quel amour cause l'extase. Donc l'extase apparaît bien comme un effet, une conséquence. On dit de quelqu'un qu'il est en extase. Alors là, nous avons tous l'expérience, hein, voyez bien. On dit de quelqu'un qu'il est en extase lorsqu'il est mis hors de soi, extracé. C'est juste l'inverse de l'intase. Hein? Inse. Hein? Quand vous demeurez inse, quand vous ramenez tout à vous. Alors vous êtes en vous-même. Tandis que là, extrace ponitur. Il est posé en dehors de lui. Il est projeté vers. Cela peut arriver dans l'ordre de l'appréhension et dans l'ordre de l'affectivité. Dans l'ordre de l'appréhension, on dit de quelqu'un qu'il est mis hors de soi quand il est entraîné hors de la connaissance qui lui est propre. Que ce soit par introduction à une connaissance plus haute, comme il va pour l'homme élevé à la compréhension de certaines choses dépassant la portée de ses sens et de sa raison, et dont on dit qu'il est en extase parce qu'il est transporté hors la perception naturelle de sa raison et de ses sens. Citur extasim passus. Il est posé en extase, il est placé en extase. C'est beaucoup moins habituel. Hein? C'est au fond la vision béatifique. Je crois qu'il n'y a pas de vision béatifique qui fait qu'il y a une véritable extase de la connaissance. Parce qu'est-ce qu'on peut dire que la foi est une extase? Et si je prends le texte de saint Thomas un peu matériellement, je dirais la foi est une extase. Hein, si je prends un peu matériellement, puisque la foi me fait connaître quelque chose qui est au-delà de la raison, au-delà des sens. Donc elle me pose au-delà de ma connaissance habituelle. Donc c'est une certaine extase. Je ne crois pas qu'on puisse le dire, puisque le mode comme naturel de notre connaissance est pleinement respecté. On dit que la foi est une adhésion. Qu'il y ait dans la contemplation une certaine extase. Alors là, je veux bien l'accepter. Qu'il y ait dans la contemplation une certaine extase. Parlez donc du Saint-Esprit. Parce qu'on dépasse le mode naturel comme naturel. Hein. Il y a une certaine extase, oui. Dans la vision béatifique, tout à fait. Alors.
Prophétique.
Aussi, dans la vision prophétique, il y a sûrement quelque chose qui n'est pas, mais qui est plus intuitif. Hein. Alors, l'intuition a un certain mode extatique. L'intuition. Il faudrait voir. Il faut se reposer la question à propos de le traité de la prophétie, s'il y a vraiment un mode extatique. Pour la foi, comme telle, l'adhésion de foi, ça me semble difficile de le dire. Pour la contemplation, il me semble qu'il y a quelque chose d'extatique, parce que la contemplation est déjà même naturelle. La contemplation est déjà quelque chose qui est au-delà de notre mode naturel de connaître. On est porté vers l'autre, et puis que toute contemplation, je crois, présuppose un amour. Alors on est porté en dehors. On est, au fond, il y a extase quand on dépasse la logique. Ça, on pourrait dire. Quand vous restez enfermé dans la logique, vous n'êtes pas dans une attitude extatique. Ça ne veut pas dire que la logique est contraire à l'extase, n'est-ce pas ? Mais la logique nous enferme dans un mode qui est comme naturel à nous. Et alors, dès qu'on est au-delà de la logique, il y a quelque chose d'extatique. Ou bien parce qu'il est ravalé au-dessous de soi, comme subit une extase, celui qui tombe dans la folie et la démence. Alors, il ne quitte pas la folie, il ne quitte pas la logique. Très curieux. C'est curieux, mais c'est une extase très particulière. C'est une intase aussi, celle-là, parce qu'on est plongé dans l'imaginaire. Dans l'ordre affectif, on dit qu'il y a extase lorsque la faculté d'aimer se porte sur un autre, faisant sortir de soi d'une certaine manière. Exiens quodam modo extra se ipsum. La première de ces deux extases est l'œuvre de l'amour par mode de disposition. Pour autant que l'amour fait méditer sur ce qu'on aime. Vous voyez, alors il met que la méditation serait... Mais au fond, en réalité, c'est la contemplation, je crois. Il met méditation. La première de ces deux extases est l'œuvre de l'amour par mode de disposition, pour autant que l'amour fait méditer sur ce qu'on aime, fait contempler ce qu'on aime, comme nous l'avons dit. Et la méditation intense d'une chose fait oublier toutes les autres. En réalité, ce n'est pas la méditation, c'est la contemplation. La méditation reste dans son mode d'immanence, il n'y a pas d'extase. Ça me semble très difficile de dire qu'il y a d'extase. D'abord, quand on aime, on ne médite plus. On contemple. Vous voyez ? Ah, il faut peut-être un peu, je ne dis pas corriger ça demain, c'est plus sa fête qu'on va corriger aujourd'hui. C'est pas la méditation, c'est une contemplation. Et je crois que là, on peut dire que l'amour qui est là, parce que l'amour fait contempler. Je ne sais pas, l'amour fait méditer, mais en réalité, ça fait contempler. Quant à la seconde extase, l'amour en est la cause directe. Purement et simplement, dans l'amour d'amitié, et d'une certaine manière seulement, dans l'amour de convoitise. Car dans l'amour de convoitise, l'aimant se porte en quelque sorte hors de soi, selon que, non content de jouir du bien qu'il possède, il cherche à jouir de quelque chose en dehors de lui. L'amour de la confiture. J'ai une extase d'amour de confiture. Vous voyez, c'est extraordinaire. Quand c'est très intense, l'amour de la confiture peut produire une extase. Ou l'amour du chocolat, vous connaissez. Car dans l'amour de convoitise, l'aimant se porte en quelque sorte hors de soi, selon que, non content de jouir du bien qu'il possède, il cherche à jouir de quelque chose en dehors de lui. J'aime tellement les confitures que je vais les chercher dans l'armoire. Hein, voilà, je ne me contente pas de la part que j'ai là. Alors, on sort de soi et on recherche. Mais c'est une extase très particulière. Ce bien extérieur, il cherche à l'avoir pour soi. Il ne sort pas à vrai dire de soi. Une telle affection, en fin de compte, se ramène à lui. Donc il n'y a pas de véritable extase. Il y a un oubli du reste. Bien évident, il y a un oubli du reste. Regardez, une mouche, quand elle est dans le miel, elle oublie tout le reste. L'amour de convoitise, c'est très puissant, ça oublie tout le reste. On reste empêtré dedans. Alors, extase, en ce sens que c'est en dehors d'elle-même, mais en réalité, c'est pas une extase. Mais dans l'amour d'amitié, l'affection sort absolument d'elle-même. Car on veut du bien à son ami et on y travaille, comme si l'on était chargé de pourvoir à ses besoins, et cela pour l'ami lui-même. On veut du bien, on sort de soi. Donc l'extase est prise comme l'effet d'amour. Alors pouvons-nous aller plus loin et dire que tout amour est extatique ? Je crois. Vous voyez ? Alors c'est ça qui serait intéressant à dire. On a dit ici que l'union était l'effet d'amour, parce que tout amour fait l'unité. L'amour est source d'extase parce qu'il est lui-même une sortie de nous. Oui, forcément. S'il nous fait sortir de nous pour chercher le bien de l'ami, ça prouve qu'il est déjà en lui-même extatique. C'est intéressant parce que les effets font connaître la cause, hein, toujours. Et comme là, il y a une immanence de l'effet de la cause, on peut, à partir des effets, comprendre la cause. Vous voyez ? Donc je comprends ce qu'est l'amour à partir de l'union, je comprends l'amour à partir de l'adhésion mutuelle, demeurer en moi et moi en vous. L'amour nous fait demeurer en celui qu'on aime. Et celui qu'on aime demeure en nous. Et l'amour est extatique parce qu'il produit l'extase. Oui. Le zèle est-il un effet de l'amour ? On peut regarder, si vous voulez, la troisième objection, mais ça n'a pas grand intérêt. L'amour unit l'aimé à l'aimant. Si donc l'aimant se tend hors de soi pour rejoindre l'aimé, il s'ensuit qu'il aime toujours l'autre plus que soi-même, ce qui est manifestement faux. Réponse : celui qui aime sort de soi. Ille qui amat, in quantum extra se exit. Vous voyez ? En tant qu'il aime, extra se exit. C'est bien l'amour qui nous fait, qui nous met dans cet état extatique. Celui qui aime sort de soi dans la mesure où il veut du bien à son ami et travaille à le réaliser. Vous voyez, alors saint Thomas met l'extase uniquement du côté du bienfait. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et voir que l'extase est du côté affectif aussi ? On m'a posé la question, parce que la question se pose. Vous voyez, il prend l'extase dans un sens sortir de soi. En sortir de soi, j'oublie le reste et puis je suis tout entier attentif à ce que désire l'ami. Donc je suis là pour réaliser des bienfaits pour lui. N'y a-t-il pas quelque chose de plus profond dans le point de vue extatique ? Mais il ne veut pas le bien de son ami plus que le sien propre. Il ne s'ensuit donc pas qu'il aime autrui plus que soi. Ça, c'est une question très délicate. Hein. Du fait même qu'il aime l'autre, et qu'il est tout attentif à l'autre, et qu'il est sorti de lui, au moment où il aime l'autre, il se dépasse lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'aime plus, mais c'est de se dépasse lui-même. Et il n'est pas en amour de soi. L'amour de soi est nécessaire à l'amour d'amitié, mais l'amour d'amitié va plus loin que l'amour de soi. Alors, le zèle est-il un effet de l'amour ? D'après Denis, Dieu est appelé zélateur, zélotesse, à cause du grand amour qu'il a pour les êtres. Hein ? Vous appelez souvent Dieu zélotesse. Dorénavant, vous l'appellerez zélotesse. Dieu est appelé zélotesse à cause du grand amour qu'il a vers les existants, vers les réalités. Le zèle, zélos, est en quelque sens qu'on le prenne, le zèle, en quelque sens qu'on le prenne, vient de l'intensité de l'amour. Il y a zèle, ardeur, ferveur. Trois mots très très proches. Zèle, ardeur, ferveur. Il faut se demander, il y a une proximité très grande. C'est très proche, ces trois mots. C'est très intéressant à les étudier, du reste. Ce sont des propriétés, c'est des conséquences, donc ça nous aide à comprendre. Mais l'ardeur est beaucoup plus liée à l'irascible et donc à l'espérance. Alors la ferveur est-elle liée à l'amour ? Oui, et le zèle aussi, et la foi fidélité. Ferveur et zèle, c'est l'intensité. L'intensité de l'amour. Et la fidélité, c'est lié à la foi. C'est intéressant à étudier pour mieux comprendre la signification de ces termes. Le zèle, en quelque sorte, donc, en quelque sorte qu'on le prenne, vient de l'intensité de l'amour. Il est manifeste en effet que plus une force se porte intensément vers quelque chose, plus elle repousse avec vigueur ce qui lui est contraire ou hostile. Or, l'amour, comme le dit saint Augustin, est une sorte de mouvement qui tend vers l'aimer. Une sorte de mouvement qui tend vers l'aimer. Un amour ardent cherchera donc à exclure tout ce qui s'oppose à lui. C'est le propre de l'amour ardent, évidemment. Un amour ardent cherchera donc à exclure tout ce qui s'oppose à lui. Mais cela se produit différemment dans l'amour de convoitise et dans l'amour d'amitié. Et c'est très curieux, hein ? On est dans le traité des passions. Il traite autant de l'amour d'amitié que de l'amour de convoitise. Hein ? De l'un à l'autre, hein, tout le temps. Mais cela se produit différemment dans l'amour de convoitise et dans l'amour d'amitié. De temps en temps, c'est l'amour d'amitié qui est avant, de temps en temps, c'est l'amour de convoitise. Dans le premier, celui qui désire ardemment quelque chose est porté contre tout ce qui l'empêche d'obtenir ce qu'il aime ou d'en jouir tranquillement. Bien évident, on voit très bien ça. Il fonce. C'est en ce sens que l'on parle du zèle des maris pour leurs femmes. Ils ne veulent pas que ce qu'ils cherchent d'unique auprès d'elles soit empêché par la compagnie des autres. Et de même, ceux qui sont avides d'excellence s'élèvent contre ceux qui paraissent supérieurs, comme s'ils empêchaient leur propre excellence. C'est le zèle de jalousie dont il est écrit « Ne sois pas jaloux des méchants, ne porte pas envie à ceux qui font le mal. » Dans l'amour d'amitié, au contraire, on cherche le bien de l'ami. Et quand l'amour est intense, il dresse celui qui aime contre tout ce qui s'oppose au bien de son ami. On dit alors de quelqu'un qu'il a du zèle pour son ami quand il s'applique à éloigner les paroles ou les actes qui vont contre le bien de celui-ci. C'est aussi de ce zèle que l'on est aimé pour Dieu, quand on fait son possible pour empêcher ce qui est contraire à l'honneur ou à la volonté de Dieu. Selon ces mots du livre des rois, « J'ai brûlé de zèle pour le Seigneur des armées. » Sur ce texte de saint Jean, « Le zèle de ta maison me dévore. » Et la glose dit également, « et dévorer d'un bon zèle celui qui s'efforce de corriger tout ce qu'il voit de mal et qui, s'il ne peut y réussir, tolère en gémissant. Oui, pour la vie commune, c'est très bien. Vous voyez bien, on n'accepte pas quelque chose qui soit tiède. Alors, parce qu'on est brûlé du zèle de Dieu, on n'accepte pas quelque chose qui est tiède, et alors on fonce, hein, on voit très bien. Et dévorer d'un bon zèle celui qui s'efforce de corriger tout ce qu'il voit de mal, et qui, s'il ne peut y réussir, tolère en gémissant. Donc, voyez ce que c'est que le zèle. Alors, ça se rattache à l'amour en tant que l'amour doit tout prendre. C'est cette intensité de l'amour. C'est très propre de la jalousie. Du reste, on fait des allusions avec la jalousie. La jalousie fait qu'on ne veut pas partager. Dieu est jaloux parce que Dieu demande tout. C'est pour ça qu'il est un Dieu jaloux. C'est parce qu'il demande tout. On est jaloux, au point de vue de la passion, quand on n'accepte pas le partage. On veut toute la tarte pour soi. Hein? Et on veut la manger tout entière. Et si on ne peut pas la manger tout de suite, on la cache pour le lendemain. C'est la jalousie. La jalousie qui consiste à vouloir tout prendre et pas accepter que ce soit partagé. Alors, l'amour en lui-même implique un amour intense, implique en lui-même qu'il ne veut pas de partage. D'où il y a ce zèle qui fait qu'on exclut les autres. On ne regarde plus les autres. C'est vrai, on oublie. On est pris entièrement par ça. Alors, voyons tout de suite la réponse à la seconde objection. L'objet de l'amour est le bien qui tend à se communiquer. Or, le zèle répugne à la communication. Il ne souffre aucun partage dans l'objet de son amour. Ne dit-on pas que les hommes ont un zèle de jalousie pour leurs épouses, qu'ils veulent pour eux tout seuls? Le zèle ne vient donc pas de l'amour. Réponse. Le bien est aimé en tant qu'il peut se communiquer à celui qui aime. Le bien est aimé en tant qu'il peut se communiquer à celui qui aime. C'est pourquoi tout ce qui empêche la perfection de cette communication est considéré comme odieux. Ainsi donc, le zèle est causé par l'amour du bien. Or, il arrive que, par manque de bonté, certains biens de peu de valeur ne peuvent être possédés simultanément et intégralement par plusieurs. C'est de l'amour de ces biens que naît le zèle de jalousie. Il n'en va pas de même, à proprement parler, quand il s'agit de ces biens que plusieurs peuvent posséder pleinement. Oui, juste l'inverse de la tarte. On ne peut pas posséder la tarte en même temps tous, on est obligé de la partager. Tandis que la vérité, oui. On peut tous posséder la vérité simultanément. On peut tous regarder un tableau simultanément. On est plus ou moins bien placé. C'est bien, alors on joue des coudes, là, n'est-ce pas? Mais au fond, autrement, on peut tous regarder un tableau également. Donc, il n'y a pas un zèle particulier, parce qu'on peut tous. Pour le posséder, c'est différent. Mais c'est différent pour le posséder comme un avoir. Il n'en va pas de même à proprement parler quand il s'agit de ces biens que plusieurs peuvent posséder pleinement. Nul ne jalouse autrui pour la connaissance de la vérité que plusieurs peuvent acquérir sans partage. Normalement, il n'y a pas de jalousie pour la vérité. Il n'y a pas de jalousie pour les biens qu'on peut posséder sans partage. Plusieurs. On peut seulement être jaloux de la posséder excellemment. sed forte de excellencia circa cognitionem ojus. Alors, on a un zèle, on a une jalousie de la posséder excellemment, posséder jusqu'au bout. Mais on n'est pas jaloux qu'un autre possède, au sens très très fort. On peut être jaloux qu'un autre possède parce qu'on ne sera plus premier. Alors, on n'aura plus la décoration. C'est ennuyeux. Alors, on est jaloux de ça. On ne va pas être ex aequo, parce que ce sera l'autre qui passera devant. Alors, vous êtes jaloux de ça, parce que c'est toujours, vous voyez, quelque chose qui est matériel. On est jalousie par quel, on est jaloux par quelque chose de matériel qui ne peut pas être partagé. On ne peut pas être jaloux de choses spirituelles qui peuvent être partagées. C'est pour ça que la seule manière de corriger la jalousie matérielle, c'est de regarder les biens spirituels. C'est ce que fait Jean-Baptiste. Quand les disciples sont jaloux, il parle du Christ qui est l'époux jaloux. Alors ça, personne ne peut en être jaloux puisque c'est pour tous. Le fait même que l'on déteste ceux qui s'opposent à l'ami procède de l'amour. C'est pourquoi le zèle est dit en rigueur de terme un effet de l'amour plutôt que de la haine. Oui, c'était à cause de l'objection qui disait « Le zèle ne va pas sans haine, quand il ne va pas sans amour. » Car il est écrit dans le psaume « J'ai brûlé de zèle contre les méchants. » On ne doit donc pas dire que le zèle est un effet de l'amour, plutôt que de la haine. Donc on doit plutôt dire ça, puisque c'est pour l'égard des méchants. L'amour est-il une passion qui blesse celui qui aime. Denis écrit que tous les biens, que tous les êtres s'aiment d'un amour qui contient, c'est-à-dire qui conserve. Oui, c'est le mot de Denis. Denis a un langage assez particulier. C'est singula seipsa amant contentive. Le contentive, capable de se contenir, c'est-à-dire capable de se conserver. Ides conservative. Donc Denis écrit que tout être s'aime d'une manière qu'on se conserve. C'est un des effets du gouvernement divin, se conserver. L'amour n'est donc pas une passion qui nuit, et bien qui conserve et perfectionne. Mais ne dites pas que l'amour est conservateur. Ce n'est pas la même chose. Il conserve, c'est-à-dire qu'il garde avec intensité. Il enracine l'être en lui-même. Alors, vous voyez, le double effet, hein, il est extatique et il ramène une nouvelle. C'est ça qui est intéressant à étudier dans l'amour. Hein. C'est qu'il y a des effets quasi contradictoires. L'amour est conservateur et l'amour est extatique. Ça dépend pour quelle chose de genre d'amour. Hein. Et conservateur, on aime de garder ce qu'on aime. On le garde jalousement. Et la mère couveuse, alors elle garde jalousement. Et puis au contraire, quand on aime, il y a un amour extatique. C'est ces deux effets qui apparaissent contradictoires et qui ne sont pas contradictoires. Et qui tous les deux font comprendre ce que c'est que l'amour. Nous l'avons dit. L'amour signifie une certaine adaptation de la puissance affective à quelque bien. Amor significat coaptationem. Alors ne disons pas une certaine adaptation. Ça ne va plus du tout dans le langage moderne. C'est pas surtout qu'on nous l'a tellement répété. Non, ça ne va plus du tout. L'amour fait qu'on s'adapte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Significat Quatationem. Une quatation, c'est pas la même chose. C'est une connaturalité. C'est pas une adaptation. L'adaptation, c'est toujours vers le bas. On ne dit pas qu'on s'adapte à Dieu. Tandis qu'on peut dire qu'on se met en connaturalité vers Dieu. Normalement, on s'adapte vers quelque chose qui est plus bas. Normalement. Quelqu'un d'égal, on peut aussi dire adaptation. Mais à l'égard de quelqu'un qui est au-dessus de nous, c'est beaucoup plus difficile de dire adaptation. Quand on s'élève, on ne dit pas « Ah, vous vous adaptez. Vous êtes bien adapté à la situation. » N'est-ce pas ? Vous êtes tellement intelligent que vous pourrez vous adapter à cette situation. C'est-à-dire, vous ne resterez pas sur votre piédestal et vous adapterez pleinement. Mais c'est toujours un peu le fait de communiquer à quelque chose, à quelqu'un de plus d'inférieur pour s'adapter, pour lui communiquer selon ses désirs. Tandis que le mot coaptationem signifie un cat coaptationem quam dam affective virtutis. Une coaptation de la vertu appétitive, de la vertu affective. Nous avons dit l'amour signifie une certaine coaptation de la puissance affective à l'égard de quelque bien. Or rien ne s'abîme pour s'être adapté à ce qui lui convient. Mais rien ne s'abîme. Nihil antem quad coaptatur ad aliquid, quod est sibi conveniens, ex hoc ipso leditur. Donc rien n'est abîmé, rien n'est diminué. Si vous mettez adaptation, ça ne va plus du tout. C'est coaptation. C'est difficile, coaptation, à bien définir, cette coaptation. Or rien ne s'abîme pour s'être coapté à ce qui lui convient. Il s'enrichit plutôt, si c'est possible, et s'en trouve mieux. Au contraire, ce qui s'adapte à ce qui ne lui convient pas est gâté et détérioré. Et donc, l'amour du bien qui convient perfectionne et améliore celui qui aime. L'amour du bien qui ne convient pas blesse et détériore. C'est pour cela que l'homme est surtout perfectionné et rendu meilleur par l'amour de Dieu, tandis qu'il est blessé et détérioré par l'amour du péché. Selon ces mots d'Osée, ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Ceci doit s'entendre de l'amour au point de vue de ce qu'il y a de formel en lui, c'est-à-dire de l'appétit. Quant à l'appétit matériel de la passion de l'amour, quant à l'aspect matériel de la passion de l'amour, à savoir que certaines modifications corporelles, il arrive que l'amour blesse à cause d'un certain excès, comme parfois dans l'activité du sens, et en tout acte d'une puissance de l'âme qui s'exerce avec modification de l'organe corporel. Vous voyez comment on peut saisir que l'amour blesse. C'est intéressant de bien saisir ça. Évidemment, c'est surtout développé dans la littérature romantique, n'est-ce pas ? Alors ça, on voit très bien. Mais au-delà de la littérature romantique, on peut essayer de comprendre philosophiquement le fondement de cette littérature romantique, n'est-ce pas ? Alors pour saisir philosophiquement et théologiquement le fondement de cette littérature romantique, il faut saisir que l'amour implique une adaptation. Tout est là-dessus. Une adaptation. L'amour fait qu'on est capable d'être coadapté. On est adapté avec quelqu'un, on est lié avec quelqu'un. Je crois que c'est ça qu'il faut dire, lié affectivement. On est lié affectivement avec quelqu'un. Alors, si on est lié affectivement avec un bien qui nous convient, un bien supérieur à nous, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu fréquentes. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. N'est-ce pas ? Vous voyez l'adaptation. C'est exactement ça. C'est que, de fait, il y a des vases communicants. Alors, si on aime quelqu'un qui est notre bien, qui nous convient et qui convient être notre bien, l'amour, à ce moment-là, ne blesse pas. Il en oublie. Il nous rend meilleurs. Il nous permet d'aller plus loin. Si au contraire, vous aimez un bien qui est inférieur à vous, alors à ce moment-là, cette cohabitation de l'amour fait que l'amour nous blesse. Parce qu'on aime quelque chose qui est inférieur à nous. Et donc il nous rend moins beau, il nous blesse, il nous abîme. Et cependant, on peut dire du côté passionnel, alors c'est le fondement de tout l'aspect romantique, parce que c'est toujours du côté de la passion, l'aspect romantique. On peut dire que l'amour nous blesse en raison de l'intensité de l'amour. Alors, en raison de l'intensité de l'amour, notre cœur éclate. Ah, n'allez pas trop, mon cœur va éclater. Il ne faut pas presser trop. C'est comme la...